journal. Fabien Cazot, bonjour Fabien.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Un double défi sécuritaire et sanitaire. La soirée de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern sera très encadrée à Paris. Les Champs-Élysées sous haute surveillance. Une situation sanitaire à risque, particulièrement chez les jeunes. Inquiétude du ministre de la Santé Olivier Véran ce matin dans le journal du dimanche. L'épidémie pousse le gouvernement à reporter son plan de relance et pèse de tout son poids sur les plus précaires. On en parle dans 20 minutes avec votre invitée Laetitia.
Oui, Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique. Les associations d'aide aux plus démunis voient leurs inscriptions s'envoler. Les inégalités se creusent. Le dossier migrant aussi. Le Secours catholique a saisi avec d'autres associations la Défenseur des droits après les évacuations autour de Calais. On parle donc de tout cela avec Véronique Fayet à 8h20.
La visite d'Éric Dupond-Moretti hier soir à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts. Il se défend de les avoir traités d'ayatollah. Et puis la fin programmée de France O, la chaîne des Outre-mer. Ce sera d'émettre ce soir à minuit.
France Inter.
Il y aura des expressions de joie, il faut qu'elles soient compatibles avec la sécurité publique. Avertissement du ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, qui en prévision de la finale de Ligue des Champions PSG-Bayern ce soir, match à huis clos à Lisbonne. 3000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris, ainsi que 300 pompiers, avec un double objectif, la sécurité bien sûr, mais aussi le respect des mesures sanitaires. Ariane Grissel.
C'est un dispositif digne d'une Saint-Sylvestre qui sera mis en place sur les Champs-Élysées ce soir puisque le quartier sera interdit à la circulation dès le coup d'envoi du match, 21h. Décision qui n'est habituellement prise que pour le passage à la nouvelle année. Les autorités disent ainsi vouloir permettre aux supporters de manifester leur éventuelle joie tout en ayant la place qu'il faut pour rester à distance les uns des autres. Pas de voiture, pas de métro non plus. 17 stations de ce même quartier seront fermées à partir de 22h pour éviter l'arrivée de fans en trop grand nombre. Autre mesure, le port du masque est obligatoire dans tout ce périmètre des Champs-Élysées. Des contrôles seront menés au point d'accès avec distribution aux éventuels étourdis. Ensuite, le ministre de l'Intérieur l'assure, tous ceux qui seront vus sans masque dans la zone seront systématiquement verbalisés. Les rassemblements de liesse en cas de victoire sont autorisés, mais pas de fête jusqu'au bout de la nuit. Les supporters sont prévenus. Les forces de l'ordre disperseront les attroupements 2 heures après la fin du match.
Un dispositif de sécurité sera également mis en place aux abords du Parc des Princes où le match sera retransmis devant 5000 personnes. C'est le maximum autorisé avec là aussi masque obligatoire sous peine d'amende.
La situation sanitaire qui, bien au-delà du PSG, continue de préoccuper le gouvernement.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, adresse ce matin dans une interview au JDD plusieurs mises en garde, notamment en direction des jeunes. Le virus circule 4 fois plus chez les moins de 40 ans que chez les plus de 65 ans, affirme le ministre. Il parle d'une situation à risque, craignant particulièrement que les plus jeunes contaminent leurs aînés, plus fragiles et donc davantage susceptibles de devoir être hospitalisés. En Italie, pays frappé de plein fouet par la première vague de l'épidémie avant la France, la situation redevient très préoccupante. Pour la 3e semaine consécutive, le pays enregistre une hausse du nombre de patients affectés par le coronavirus dans toutes les régions, ce qui fait peser des risques sur la rentrée des classes. À Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
L'Italie a peur après avoir été le bon élève de l'Europe. Le pays observe avec inquiétude un rebond du nombre de contagions. Les 3 dernières semaines, les chiffres n'ont cessé de se détériorer. Près de 300 nouveaux foyers de Covid-19 ont été recensés les 7 derniers jours et plus de 1000 nouveaux cas ont été relevés par les autorités sanitaires en 24 heures. Les pires résultats depuis le déconfinement. En mai dernier, l'Institut supérieur de la santé déplore une phase épidémiologique transitoire avec une tendance à l'aggravation progressive, une forte baisse de l'âge moyen des contaminés et aucune région qui n'est épargnée. Une situation qui fait peser l'incertitude sur 2 grands événements le mois prochain, la rentrée des classes le 14 septembre et les élections régionales fixées 1 semaine plus tard. Selon le ministère de la Santé, elles pourraient être menacées si les contagions ne ralentissent pas. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
En France, c'est le plan de relance économique qui fait les frais de l'épidémie.
Le gouvernement a annoncé hier son report d'une semaine. Il devait initialement être présenté après-demain. Le syndicat des indépendants et des très petites entreprises, par la voix de son secrétaire général, Marc Sanchez, appelle le gouvernement à en profiter pour muscler son plan.
Peut-être que le laps de temps que le gouvernement se donne aujourd'hui peut nous amener à considérer que ils vont revoir leur copie. Ça peut être des jours déterminants qui permettront d'aller au-delà des annonces qu'a faites le ministre de l'économie et des finances sur le sujet. 100 milliards pour relancer l'économie, effectivement, ça a un impact. Ce qui nous pose problème, nous, c'est la proportion des sommes allouées pour les TPE, c'est-à-dire 3 milliards, au regard de ces 100 milliards. Pour pouvoir relancer une économie, il faut que les entreprises puissent survivre. Et il faut qu'elle fasse face au mur de dette qui va être important à la rentrée. Il y a quand même du stress au niveau des dirigeants sur ces sommes, avec des chiffres d'affaires qui sont bien moins importants que l'année dernière. Très clairement, sur les cessations de paiement, je peux vous dire qu'on est en plein dedans. On est dedans aujourd'hui.
Marc Sanchez, joint par Claire Chaudière.
C'est l'image politique du week-end. Éric Dupond-Moretti, chez les écologistes.
Le ministre de la Justice avait créé la polémique cette semaine en préfaçant le livre du patron de la Fédération des chasseurs. Il s'en prenait aux ayatollahs de l'écologie. Éric Dupond-Moretti est allé dire hier soir aux militants d'Europe Écologie Les Verts, réunis dans le cadre de leur université d'été, que ce ne sont pas eux qui étaient visés.
Quand je lis, par exemple, que j'ai traité les écologistes d'ayatollahs, c'est faux. Ce que j'ai dit, en revanche, c'est qu'il y avait des extrémistes, et il y en a partout, chez les chasseurs aussi, et que ceux-là, je les stigmatisais. Et je voudrais vous dire, mesdames, messieurs, que pour ce mot ayatollah, je sais ce qu'il signifie. Je me suis inspiré d'une des figures tutélaires de l'écologie, monsieur Noël Mamère, qui a dit qu'il n'était pas un ayatollah vert, qu'il pratiquait la chasse et la corrida avec modération. Je pense que la liberté ne peut s'exprimer que dans la tolérance. Le chasseur, c'est pas qu'un beauf, assassin, alcoolique et macho. Certains ont dit ça. Les ayatollahs de l'écologie ont pu le dire. Si je suis ici, c'est d'abord que je pense que vous n'êtes pas des ayatollahs parce que moi, je n'ai rien à dire aux ayatollahs. Et dans mon parcours personnel, dans mon parcours professionnel, il n'y a aucune place pour l'extrémisme. C'est cela que j'ai mis en cause et c'est pas vous.
Autre université d'été politique qui se termine aujourd'hui, celle de la France insoumise à Châteauneuf-sur-Isère. Jean-Luc Mélenchon prononcera son discours de clôture en milieu de matinée. Clap de fin ce soir pour France O, la chaîne des Outre-mer cessera d'émettre à minuit après une journée de programmation spéciale et malgré les pétitions qui ont réuni plus de 100 000 signatures, se pose désormais la question du personnel et de la visibilité pour l'Outre-mer. Jacqueline Pétrose.
L'audience de France O n'a jamais vraiment décollé, c'est le constat de France Télévisions. Mais le symbole était fort lors de sa création en 2005 et de son arrivée en 2010 sur la TNT. Ouvrir une vitrine sur les territoires d'outre-mer en métropole. Au bout du compte, face aux besoins de place sur la TNT, France O n'a pas fait le poids. Si l'information est désormais relayée sur le portail Outre-mer La Première, pour les programmes, la feuille de route reste floue. Jean-Michel Mazerolle, journaliste et élu du personnel.
Est-ce qu'il y a une vraie volonté de la part de France Télévisions et de la direction de continuer d'assurer cette mission de visibilité des Outre-mer vraiment pleinement sur les autres chaînes du groupe ou est-ce que finalement il n'y a pas une grande volonté de vouloir avancer et ça on n'a pas de réponse et ça continue de nous inquiéter plus que jamais. On réclame à cœur et à cri qu'il y ait une case documentaire qui soit créée par exemple sur France 3 où on puisse diffuser et continuer de donner cette visibilité aux des Outre-mer via tous ces documentaires qui sont fondamentaux. Pour l'instant pas de réponse.
Au siège de Malakoff, près de 300 personnes s'interrogent aujourd'hui sur leur devenir. Dès le 1er septembre, c'est France Info Télé qui sera diffusée en haute définition sur le canal 19.
Une manifestation des personnels de France O et de soutien aura lieu cet après-midi à 14h30 à Paris, au Palais Royal, devant le ministère de la Culture.
Merci Fabien Cazot.